Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Quel souvenir, quel lien, quelle mémoire conserve-t-on d'un pays que l'on a quitté enfant sous la pression d'une guerre civile ou d'événements dramatiques? Ce sont les interrogations que pose le film Go Home de la réalisatrice franco-libanaise Jian Shoaib avec l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani en tête d'affiche. Ceux qui sont partis ont leur pays rêvé, ceux qui sont restés tentent d'oublier les heures sombres de la guerre et de l'après-guerre. Entre non-dit et idéalisation, le dialogue entre ces deux parties d'une même famille au sens large paraît bien difficile. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Tante, j'y suis allée. À la maison, j'y suis allée.
Il n'y a plus de maison.
Jian Shoaib, bonjour.
Bonjour.
Cinéaste, vous réalisez Go Home, un film qui évoque une facette du Liban contemporain. Est-ce un film sur la difficulté du retour au pays que l'on a quitté ou parfois que l'on a fui?
Oui, c'est aussi et beaucoup un film là-dessus. Il s'appelle Go Home parce que en tant qu'exilé, on entend très souvent Go Home, rentre chez toi. Et cette jeune femme jouée par Golshifteh Farahani rentre chez elle. Mais qu'est-ce que ça veut dire rentrer chez soi quand on a passé toute sa vie ailleurs, et quand elle retourne dans sa maison en ruine et qu'elle s'installe là, elle retrouve écrit sur les murs « Go home, rentre chez toi ». C'est-à-dire que même chez elle, entre guillemets, elle n'est plus chez elle.
Alors justement, la maison joue un grand rôle. Comment l'avez-vous trouvée, cette maison ?
Il y a beaucoup de maisons comme ça au Liban qui sont restées dans cet état-là, c'est-à-dire un état post-guerre. C'est resté comme des capsules temporelles, comme des traces de la guerre et de la violence. Elles sont posées un peu n'importe où dans le paysage. C'est des maisons qui ne sont pas reprises, qui ne sont pas revivifiées, qui sont posées en mémoire. Donc je l'ai trouvée sur mon chemin.
C'est un film sur la mémoire, c'est la mémoire de ceux qui sont partis, mais aussi c'est la mémoire de ceux qui sont restés, et là il y a une différence de mémoire évidemment.
Il y a une grosse différence de mémoire. Chez ceux qui sont restés, souvent il y a la nécessité de l'oubli pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir rester là déjà, et vivre là, et envisager le futur. Il y a aussi la nécessité de l'oubli parce qu'il y a eu tellement de violence pendant la guerre. Il n'y a pas eu, par exemple, comme en Afrique du Sud, de comité vérité-réconciliation, c'est-à-dire qu'on a tout mis sous le boisseau. En fait, il y a toujours cette peur de réouvrir les plaies de la guerre et du coup réouvrir la boîte de Pandore et relancer des violences. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, il n'y a pas de manuel d'histoire en commun dans toutes les écoles libanaises. En fonction de l'école où vous êtes, de la communauté qui gère l'école où vous allez apprendre l'histoire différemment et l'histoire de la guerre d'autant plus différemment.
D'ailleurs, cette maison que vous filmez, elle se situe dans quel territoire au Liban ?
Aux portes du Chouf, au-dessus de Beyrouth.
Parce qu'on a l'impression que c'est une zone qui est assez mixte, finalement, en termes de communautés qui vivent à proximité.
Oui, moi j'ai voulu ça, j'ai voulu que ça soit une zone assez mixte. Ça m'intéressait que Nada, son frère, sa famille appartiennent à une communauté, parce que ça me paraît artificiel au Liban de ne pas du tout citer de communauté, de confession d'appartenance, mais je voulais pas que ça soit monolithique, quoi.
Mais du coup, on a l'impression que la mémoire idéalisée de Nada, lorsqu'elle revient, est prise finalement en défaut parce qu'elle s'aperçoit que le grand-père qu'elle a idéalisé n'est peut-être pas aussi vierge de tout reproche qu'elle se l'imaginait.
Oui, tout à fait. Quand elle rentre au Liban, elle rentre dans son pays rêvé, elle rentre dans son âge d'or, en fait, dans le pays de l'âge d'or, dans le pays de l'enfance perdue. Et du coup, en revenant, elle rapetisse. Elle redevient un peu enfant et elle cherche des réponses très claires, comme les enfants peuvent être si absolus. Et son grand-père, au départ, c'est un souvenir chaleureux. Pour elle, elle l'a idéalisé, c'est un homme merveilleux. Et petit à petit, en fonction de ce qu'on lui raconte, sa mémoire va commencer à se complexifier. Son souvenir de lui va devenir avec plus de zones de gris, voire de zones d'ombre assez violentes, oui.
Est-ce que ça veut dire que pour ceux qui sont partis, même jeunes, en étant nés au Liban, mais qui sont partis lorsqu'ils avaient 8-10 ans, ce qui est le cas de Nada, c'est difficile de revenir ?
Oui, c'est parce que quand vous êtes élevé ailleurs, vous devenez quelqu'un d'autre. C'est difficile de reprendre contact avec l'enfant libanais qu'on était. Vous l'entendez même dans ma voix, je pense. C'est-à-dire que j'ai un accent à peu près français. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas évident de revenir et d'accepter les règles du jeu de là-bas. Et puis, le pays lui-même a changé. C'est plus le pays de notre enfance. Le pays a continué à évoluer, les gens ont continué à vivre. On n'a plus forcément sa place. C'est plus si clair. Où est-ce que c'est chez soi ?
Jeanne Schwebb, dans le film, il y a cette quête de Nada qui va dans le sud, donc dans la partie contrôlée en quelque sorte par le Hezbollah, à la recherche de ce grand-père qui était idéalisé. Ça pose la question des disparus, qui est une question qui est quand même très importante aujourd'hui au Liban.
Oui, c'est une question qui devient de plus en plus importante. En fait, dont se saisissent plusieurs organisations de société civile. Il y a 17 000 disparus à la fin de la guerre du Liban, dont on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus, s'ils sont en vie, où est-ce qu'ils sont. Un disparu, c'est terrible, parce que vous pouvez tout imaginer. Un disparu, le deuil est impossible. Et pourtant, il est peut-être mort, et sans doute au bout d'un moment, parce que ça fait quand même vraiment longtemps. Mais on ne sait pas, on peut tout imaginer. Et du coup, oui, en ce moment, au Liban, de nouveau, cette question a ressurgi de plus en plus fortement. Et il y a des organisations qui s'en sont saisies pour demander la vérité sur ces disparus. Voilà, on espère qu'un jour, cette vérité arrivera. C'est comme les maires de la place de Mai. Voilà, ces mouvements en Argentine, au Chili, qui demandent la vérité sur les disparus. Au Liban, ça vient maintenant.
Est-ce que vous pensez que le fait que le Liban soit extrêmement communautarisé et que par ailleurs il y a une diaspora extérieure importante, est-ce que c'est un problème pour le pays lui-même ?
C'est un problème, mais c'est en même temps l'identité du pays, c'est cette impossible identité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas toutes ces communautés différentes et s'il n'y avait pas toute cette diaspora disséminée dans plein de pays différents et qui du coup ramène également des identités différentes de ces différents exils, s'il n'y avait pas tout ça, le Liban ne serait pas le Liban. Alors bien sûr, cette diversité-là crée beaucoup de complications, beaucoup de frictions, une très grande difficulté à parler d'une identité nationale. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir une identité nationale au sens monolithique ? C'est pas du tout certain. Je dirais l'identité du Liban, c'est dans sa pluralité, dans la pluralité de ses identités qu'elle se fait.
Lorsque vous retournez au Liban, parce que j'imagine que vous y retournez fréquemment, l'accueil que vous recevez est bon ?
Moi, ça a été compliqué parce que les premières fois que je suis retournée au Liban adolescente, après la guerre, enfin, ou pendant la guerre et après la guerre, j'étais très intolérante, moi. C'est-à-dire que je revenais puis je ne comprenais pas ce que je voyais. J'étais différente, j'avais été élevée ailleurs, je jugeais ce que je voyais. Et du coup, quand on juge, on est rejeté. C'est normal, on n'a pas envie de voir ce regard-là. Et puis, avec le temps, j'ai appris à avoir moins besoin de voir les choses en noir et blanc, à avoir moins besoin aussi d'exiger des vérités, à mieux accepter l'ambiguïté, l'ambivalence, la complexité du réel. Et en ayant une démarche plus dans ce sens-là, qui était vraiment la démarche en plus de mon documentaire, pour moi, le film qui a précédé celui-ci, Pays rêvé, m'a emmenée vers ça, vers cette complexité du réel et l'acceptation de cette ambivalence. Et du coup, je trouve mieux ma place aujourd'hui.
أنا مختار من زمان.
Papa nous a dit que nous allons partir en vacances, mais on a compris. Nous allons partir en vrai. C'est à cause de la guerre.
T'as senti mon grand-père, sa présence.
Le rôle de Nada est donc tenu par l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, que l'on a déjà vue dans Mensonges d'État de Ridley Scott ou À propos d'Elie d'Ashgar Farhadi. Dans Go Home, elle semble habitée par le rôle.
C'est vrai que le mot home, la maison, c'est quelque chose qui peut amener larmes aux yeux de plein de gens en ce moment. Et elle, c'est vrai qu'elle est venue chercher sa maison à l'extérieur, mais en vrai, elle cherche sa maison à l'intérieur d'elle. Et elle la cherche ailleurs, mais elle le trouve à l'intérieur d'elle.
Alors justement, vous semblez habité par ce rôle de Nada. C'était facile pour vous ?
Nada, c'était pas un personnage facile, vraiment. Elle est très dramatique, elle est très un peu folle, un peu. Elle est un individu. Mais Jihan, notre réalisatrice, elle m'a beaucoup aidée pour pouvoir être libre. Et vraiment, elle m'a donné les ailes pour pouvoir voler vraiment au plus loin que j'avais envie de voler. Il faisait froid. Mais c'était bien parce que elle m'a appris beaucoup de choses, Nada, le personnage.
Sur vous-même ?
Oui, sur les coins de moi-même et de aussi comme elle cherche ses fantômes aussi dans la maison et aussi à l'intérieur. Moi aussi, on a tous des fantômes à l'intérieur de nous qu'il faut aller les confronter, il faut aller les voir, il faut aller trouver la paix entre nous et notre fantôme à l'intérieur de nous.
Alors vous avez tourné dans beaucoup de films déjà, notamment des films à gros budget, par exemple Mensonge d'État de Ridley Scott ou le cinquième opus de Pirates des Caraïbes. Gaume, c'est complètement l'inverse, semble-t-il. Pour vous, c'est un film militant ?
Oui, bien sûr, cinéma indépendant, ce jour-ci, c'est vraiment militant parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de sous, mais c'est intelligent et ça nous fait réfléchir. Et c'est ce que je me retrouve toujours très bien dedans. Le cinéma indépendant qui a beaucoup de choses à dire. C'est galère, c'est pas difficile de le faire, de le monter et même de jouer dedans, c'est pas très facile. Mais ça nous caresse notre âme, c'est ça qui est important.
Est-ce que ce film résonne particulièrement pour vous qui avez dû quitter l'Iran dans les années 2000 ?
Oui et non, parce que Nada, elle quitte Liban dans l'histoire quand elle avait 6-7 ans. Mais moi, j'ai quitté l'Iran quand j'avais 25 ans. Comme je viens de comprendre, j'ai dit un arbre qui est très jeune, on peut les déraciner et le planter ailleurs. Mais un arbre de 25 ans, c'est pas facile. Quand on les prend, c'est pas facile de les planter ailleurs. Et pour moi, oui, on a des points en commun, mais aussi très différent parce que Nada, elle a une vie ailleurs, elle décide de revenir chercher ses racines à elle qu'elle a perdues. Moi, je suis très très liée à mes racines et je les connais très très bien, mais je suis loin de mes racines. Au lieu d'avoir un terre, j'essaye d'avoir des ailes pour pouvoir voler et je trouve comme les orchides qui poussent dans l'air, ils n'ont pas besoin de la terre. Moi aussi, là, je me suis rendu compte que voilà. Finalement, je n'ai pas besoin de la terre. Je peux construire la terre dans l'air. Ouh, c'est joli.
Sélection officielle dans les festivals d'Édimbourg en Écosse, de Busan en Corée du Sud et de Dubaï. Go Home sort en salle en France ce mercredi 7 décembre.
RFI à Beyrouth. 96.2 FM.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, plusieurs journaux arabes commentent l'annonce par l'Iran de son contrôle total sur le golfe arabo-persique.
Oui, l'information a été donnée par l'agence iranienne Pars, qui cite un général d'état-major, le général Bakr Zada, et ce dernier déclare que l'Iran contrôle dorénavant totalement le détroit d'Ormuz, un détroit qui constitue le seul accès au golfe, qualifié de persique par l'Iran et d'arabique par les pays arabes. Une déclaration qui intervient au lendemain du 45e anniversaire de la prise de contrôle par l'Iran du Shah des îles d'Abu Moussa et Tomb al-Kobra et al-Sogra, des îles qui étaient sous occupation britannique depuis le 19e siècle et que Londres avait rattachées aux Émirats arabes unis lors de leur indépendance. Plusieurs éditorialistes voient dans cette déclaration de l'état-major iranien une tentative de menace de la part de Téhéran contre les États arabes du Golfe, des États engagés dans une coalition qui combat la rébellion Houthi au Yémen, alors que l'Iran soutient la rébellion, des menaces rendues possibles par le désengagement américain dans la région et les accords de Washington avec Téhéran, estiment des commentateurs.
Alors Michel, plusieurs sujets militaires également et politiques font la une cette semaine.
Trois sujets ont plus particulièrement retenu l'attention des éditorialistes et les commentateurs de la presse israélienne tout au long de la semaine, notamment l'attaque de l'aviation israélienne en Syrie, non loin de la capitale Damas, et une attaque qui, soit dit en passant, Eric, n'a toujours pas été revendiquée de sources officielles israéliennes. La cible, un dépôt de munitions, pour un raid, ce raid aérien sort de l'ordinaire dans la nouvelle réalité que vit la région. Si Israël est passé à l'offensive, c'est que très probablement il existait un besoin urgent, estime un éditorialiste. Et pour Mariv, ce raid porte atteinte de manière indirecte à la Russie, qui est, on le sait, très impliquée dans le conflit syrien. Il est aussi question dans les journaux de la loi qui vise à légaliser les avant-postes israéliens en Cisjordanie. Le vote à la Knesset a été reporté à lundi, en marge d'un vaste imbroglio parlementaire autour du texte qui, selon certains, n'est ni plus ni moins qu'une forme d'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Et le troisième sujet, c'est la loi qui propose de bâillonner les muezzines dans les mosquées. Les journaux citent le président israélien Reuven Rivlin, qui propose tout simplement de laisser tomber cette législation très contestée.
Michel, la presse revient également sur la vague d'incendies qui a dévasté Israël et plusieurs colonies de peuplement.
Combien d'incendies étaient réellement le fait d'actes provoqués pour motifs nationalistes? Eh bien, si vous lisez les journaux israéliens et suivez les médias électroniques, vous ne trouverez pas, Eric, la réponse à cette question. Par contre, on peut voir une guerre des chiffres. Plusieurs ministres et députés de droite parlent de 50%. Des députés de gauche et des partis arabes israéliens font remarquer qu'il n'y a pratiquement pas eu d'arrestation. Et ils accusent les dirigeants israéliens de populisme et d'opportunisme. La police et les pompiers préfèrent ne pas communiquer sur ce sujet.
Alexandre, de nombreux journaux égyptiens s'en prennent au Parlement après les accusations de débauche contre le plus grand romancier de la vallée du Nil.
Oui, un député a en effet déclaré que les romans de Naguib Mahfouz, le prix Nobel égyptien de littérature, comprenaient des scènes de débauche dont il aurait dû rendre des comptes devant la justice s'il vivait aujourd'hui. Alors, une déclaration faite à l'occasion du rejet par une commission parlementaire d'un amendement à la loi des publications annulant la peine de prison dans les délits d'atteinte à la moralité. Une loi en vertu de laquelle un romancier a récemment écopé de 2 années de prison ferme. Les journaux d'opposition de gauche, mais aussi ceux considérés comme proches du régime, tirent depuis plusieurs jours à boulet rouge contre un parlement accusé d'avoir cédé aux salafistes qui sont pourtant ultra-minoritaires. Les journaux rapportent aussi une convocation du cheikh de la grande mosquée d'Al-Azhar par le président Sissi pour reparler de la réforme du discours religieux. Des sujets qui reviennent sur le devant de la scène au moment où la tension règne entre le Caire et l'Arabie Saoudite, grand sponsor des salafistes.
Et la presse applaudit également, Alexandre, l'inscription de danses arabes dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Oui, il s'agit de la danse égyptienne d'Al-Tartib et de sa cousine saoudienne d'Al-Mezmar. Alors ce sont des danses qui figurent un simulacre de bataille à coups de bâton. La danse égyptienne remonte à l'époque pharaonique et figure sur des bas-reliefs de la 19e dynastie il y a plus de 3000 ans. Des danses uniquement masculines. Alors à quand l'inscription de la danse orientale, dite danse du ventre, dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité? C'est ce que se demande le correspondant de RFI en Égypte.
Et pour conclure, Michel, votre photo?
Eh bien, c'est la photo d'un F-35 Lightning II. Les premiers exemplaires de cet avion nouvelle génération devraient atterrir dans les prochains jours en Israël pour être intégrés dans l'armée de l'air.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Pour écouter Orient Hebdo, rendez-vous sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal. Sous le leadership.